On va aborder un sujet très important. Suite à ce cours et à cette lecture de ce livre bénéfique du Cheikh Abdessalam Ibn Barjas, rahimahullah, on va aborder un point important qui concerne le commentaire d'une parole d'un des grands savants de cette communauté, l'imam Ibn Battah, rahimahullah, qui est l'auteur du célèbre Al-Ibana Al-Kubra et également de Al-Ibana Al-Sughra, connu également sous le titre de Al-Sharh wal-Ibana. Il a dit dans, justement, Al-Ibana Al-Sughra, il a dit: ne consulte personne parmi les gens de l'innovation dans les affaires de ta religion et n'en fais pas ton compagnon durant tes voyages. Et si cela t'est possible, fais en sorte qu'il ne soit pas ton voisin. Il fait partie de la sunna de s'écarter de tous ceux qui adoptent une seule des croyances que nous avons citées, de même que de les boycotter et de les détester, et de boycotter quiconque les prendrait comme alliés, les secourrait, les défendrait ou les fréquenterait, même si celui qui fait cela laisse apparaître la sunna. Le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrali, qu'Allah le préserve, a dit en commentaire de ses propos: ce passage est très important. Et par Allah, il n'a pas été écrit pour rester dans les livres. Il a plutôt été écrit pour être mis en pratique. Cependant, à notre époque, les gens vivent, comme disent certains de nos cheikhs, avec un état d'esprit opportuniste au lieu d'avoir un état d'esprit religieux. Si son intérêt terrestre implique telle ou telle chose, il le fait. Mais si la perte de sa religion réside, même si la perte de sa religion réside dans cela, il n'y a de force ni de puissance que par Allah. Le boycott des adeptes des innovations est donc une base parmi les fondements de la croyance des gens de la sunna. Et c'est avec grande tristesse que l'on peut constater qu'il est négligé à cette époque, hormis chez une minorité. Et nous demandons à Allah de nous affermir sur la vérité et la guider jusqu'à ce que nous le rencontrions. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et ne consulte personne parmi les gens de l'innovation dans les affaires de ta religion. Pour quelle raison a dit-il cela? Car il n'est pas digne de confiance. Conformément à ce que les salafs disaient, n'aie pas confiance en l'adepte de l'innovation quant à ta religion, et ne le consulte donc pas dans tes affaires. Comme cela a été rapporté d'Al-Fudayl ibn Iyad, n'aie pas confiance en l'adepte de l'innovation quant à ta religion. Quant à toi, lorsque tu consultes un des partisans de l'innovation à propos de ta religion, ne l'as-tu pas au préalable considéré digne de confiance? En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le consulter est forcément considéré digne de confiance. Ainsi, toi, lorsque tu consultes un innovateur, c'est comme si tu témoignais qu'il est digne de confiance, intègre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le consulter est forcément considéré digne de confiance. Ainsi, si tu consultes un des partisans de l'innovation, cela signifie que pour toi, il est digne de confiance. Or, les prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, disaient: l'adepte de l'innovation ne te sent pas à l'abri de lui concernant ta religion. Quant à toi, si tu le consultes, c'est que tu t'es senti à l'abri de lui concernant ta religion. Ici, bien sûr, le Shir, quand il parle d'innovation, il est en train de parler d'innovation dans la religion, comme vous l'aviez bien compris. Le Shir de continuer en disant: et de la même manière que cela est valable concernant les individus, cela est valable concernant les groupes. Il ne t'est donc pas permis de consulter l'innovateur à propos de ta religion, du fait qu'il n'est pas digne de confiance dans ta religion. Et comment peux-tu donc consulter quelqu'un qui n'est pas intègre? Al-Mutawakkil, qu'Allah lui fasse miséricorde, le calife Abbaside, a écrit une lettre à l'imam Ahmed. Et soyez attentifs, barakallahu fikoum, à ces points-là. Même si ça va peut-être faire durer un peu le temps de cette assise. Car nous vivons à une époque, comme l'a dit le Shir, où il y a une grande confusion, une époque où règne un grand désordre, et où tu vois que ces gens de l'innovation qui innovent dans cette religion et contribuent à altérer cette religion et à la modifier sont pris comme référence. Et que tu trouves que bon nombre de personnes présentent ces personnes-là aux musulmans comme étant des références. Alors qu'en vérité, ce ne sont que des adeptes de l'innovation. Al-Mutawakkil, qu'Allah lui fasse miséricorde, le calife Abbaside, a écrit une lettre à l'imam Ahmed qui lui envoya par l'intermédiaire de ses messagers. Comme le rapportait Mohammed ibn Ahmed ibn Mansour al-Marroudi, qu'Allah lui fasse miséricorde. En effet, il rapporta que les messagers du calife se rendirent auprès de l'imam Ahmed et demandèrent l'autorisation d'entrer. Ils étaient au nombre de 4 et ils se présentèrent devant l'imam, munis de la lettre du calife. On pouvait trouver dans cette lettre que les messagers apportèrent à Ahmed la question suivante que le calife lui posa à propos du fait de déléguer la gouvernance d'une contrée à un Jahmi. Un Jahmi, c'est quoi? C'est un adepte de la secte des Jahmiyyah qui s'était égaré dans de nombreux domaines de la religion, notamment dans le domaine des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également dans la question du destin, et également dans la question de la foi. Le Jahmi, c'est donc un adepte de la secte des Jahmiyyah, en référence, et quelle mauvaise référence, à Jahm ibn Safwan, qui était l'un des instigateurs de cette secte égarée et innovée, et innovatrice. Le shir de continuer en disant, il voulait savoir s'il lui était permis de solliciter l'aide des Jahmiyyah dans ce qui touche aux affaires des musulmans. L'imam Ahmed répondit à cela en disant, on ne sollicite pas l'aide des Jahmiyyah dans ce qui touche aux affaires des musulmans. Puis il le questionna, peut-on avoir recours à l'aide du juif ou du chrétien dans ce qui a trait aux affaires des musulmans? Question à laquelle l'imam Ahmed répondit, oui, il est possible d'avoir recours aux juifs ou aux chrétiens dans ce qui a trait aux affaires des musulmans, tant qu'il n'y a pas à craindre qu'ils prennent le dessus sur les musulmans. Il a voulu dire par là que s'il est une fonction par laquelle il pourrait prendre le dessus sur les musulmans, comme on dit à notre époque, des fonctions qui confèrent un contact direct avec la masse des gens et qui concernent les affaires courantes des gens, alors on ne les charge pas de cela. Par contre, si cela concerne un domaine particulier à la portée limitée et qu'il n'est pas craint qu'ils s'en servent pour prendre le dessus sur les musulmans, alors il n'y a pas de mal à cela. Ahmed continua en effet en disant, il arrivait que les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs de cette communauté, aient recours à eux. Al-Marroudi le questionna alors. On pourrait donc solliciter l'aide du juif ou du chrétien, alors qu'ils sont mécréants, et on n'aurait pas le droit d'avoir recours à l'aide des Jahmiyyah. Imam Ahmed lui dit alors, « Oh mon enfant, les musulmans sont trompés par cela. Les gens sont trompés par ce genre de personnes. Ils les considèrent après cela comme des gens de bien sans problème. » Il a donc dit, « Les gens sont trompés par cela. » Les Jahmiyyah, si on a recours à eux, les gens vont être trompés à leur sujet. Quant aux juifs ou aux chrétiens, chacun sait que personne ne se fait tromper par eux. Regarde donc cette grande compréhension. Et c'est là le sens des propos tenus par les salafs et par Allah. Nous en sommes fiers et le proclamons haut et fort du haut des minarets. Les adeptes des passions et des innovations sont plus dangereux pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Nous sommes fiers de ce genre de paroles et n'éprouvons pas de retenue à les proclamer. Et ce étant donné que les gens ne sont pas trompés par les juifs ou le chrétien. En effet, le musulman te dira sans hésitation, quand elle est un juif, c'est donc un mécréant, et quand elle est un chrétien, c'est donc un mécréant, et il ne sera pas trompé par cela. Par contre, si tu te présentes avec un innovateur, et que tu lui attribues tel poste, ils diront, s'il avait quelque chose de mauvais en lui, le sultan ne l'aurait pas mis ici. Et c'est ainsi qu'ils se font tromper par ce genre de personnage. Et de nos jours, on nous critique à cause de ce genre de propos. Cette parole des salafs, à savoir, nous craignons plus les adeptes de l'innovation, ou, autrement dit, les adeptes de l'innovation sont plus nocifs ou dangereux pour l'islam, ou plus dangereux envers les musulmans que les juifs et les chrétiens, à tel point que cela est devenu tabou et caché aux yeux de nombreux salafis qui se sont mis à baisser la tête par crainte ou par honte. Non, que cela te fasse avoir la tête haute, et explique-le à ton entourage, et dis-leur, le juif et le chrétien, personne n'est trompé par eux. Du fait de ce que les cœurs éprouvent comme dédain et détestation vis-à-vis d'eux, et du fait que leur cas est connu et dévoilé aux yeux de tous. Quant à l'innovateur, les gens sont trompés par lui. Et si par la suite tu les mets en garde contre lui, ils répondent, s'il y avait un quelconque mal en lui, il ne lui aurait pas attribué cette place. Serais-tu plus savant que le gouvernement? Et c'est ainsi que de grands maux s'abattent sur les musulmans. Ahmed a donc dit vrai, qu'Allah l'agré, en disant les musulmans sont trompés par cela, en visant les Jahmiyyah, Quant aux juifs et aux chrétiens, il n'est personne qui ne soit trompé par eux. Personne n'est trompé ni ne penche vers eux, contrairement à l'innovateur à propos de qui ils sont trompés et floués. Puis l'auteur a dit « Et n'en fais pas ton compagnon durant tes voyages. » Ce qui signifie que tu ne dois pas faire de l'innovateur un compagnon de voyage, car d'une part il n'est pas digne de confiance, et d'autre part tu vas t'être mené durant ton voyage à quelque peu te lâcher. Or, lorsque l'individu se lâche, il est forcément moins vigilant, et il se peut qu'il, pour plaisanter, se mette à tenir des propos dépassant les limites du convenable, ou que survienne de lui une erreur ou autre faux pas. Ainsi, ce genre d'attitude durant le voyage fait partie de l'intimité de l'homme. Et il convient qu'il ne laisse apparaître cela qu'à une personne qu'il aime. Ne tiens donc pas compagnie à cet innovateur durant ton voyage, car il n'est pas digne de confiance et risquerait de diffuser ce genre de faux pas. Quant à ton frère qui est intègre, il cachera cela et te conseillera dans ce qui reste du domaine du licite, et il cachera. Mais si cela rentre dans le domaine de l'erreur à corriger, il te conseillera. En résumé, ne prends pas l'innovateur comme compagnon dans ton voyage, car le fait qu'il voyage avec toi n'est pas à voir d'un bon œil, et c'est d'Allah que l'on demande la protection. Puis le shir a continué en citant un autre passage donc des propos de l'auteur que nous avons mentionné précédemment, lorsqu'il a dit « Si cela t'est possible, fais en sorte qu'il ne soit pas ton voisin. » Le shir de dire en commentaire « Agis ainsi, car cela a été rapporté des salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde. » Un nombre innombrable de fois. Il disait que les singes et les porcs vivent à côté de moi, mais préférable au fait que mon voisin soit un innovateur. Et ce, étant donné que ces animaux ne sont pas redevables de l'accomplissement des obligations ni du délaissement des interdits, alors que les maux de l'innovateur peuvent s'étendre jusqu'à son voisinage. C'est ainsi que si un sunnite vient à habiter au milieu des rawafid, c'est également un autre groupe qui se réclame de l'islam et qui s'est fait tristement connaître par le fait de ne pas reconnaître bon nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le fait de les insulter et par le fait également de les qualifier de mécréants, qu'Allah nous en préserve. C'est ainsi que si un sunnite vient à habiter au milieu des rawafid, il constatera que le premier des méfaits qui le touche et que ses frères ne se rendront pas dans ce quartier dans lequel ils résident à cause du dédain qu'ils éprouvent envers les Rawafid. Ainsi, s'ils résident parmi eux, qu'ils supportent l'isolement dont il sera victime. Et cela sera dû au mal de ce type de voisinage. Les salafs disaient qu'un joueur de flûte ou de tambour sont mon voisin, mais préférable à ce qu'un innovateur vive à côté de chez moi. Et cela car le musicien, je peux soit casser sa flûte ou son tambour, soit le réprimander. Et le problème sera résolu. Quant à l'innovateur, non, il ne s'arrête pas. Ainsi, il ne convient pas de vivre à côté de ce genre de personnes. C'est d'ailleurs pour cela que l'on dit « Le choix du voisin prévaut sur le choix de la demeure. » Le choix du voisin prévaut sur le choix de la demeure. Et le shir donc de citer quelques vers de poésie. « Il me reproche d'avoir vendu ma maison à un prix dérisoire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'y avais un voisin dérangeant. Je leur ai donc dit de cesser leurs histoires, car c'est par son voisin qu'augmente le prix de la maison ou descend. Et lorsque ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont commencé à faire apparaître cela à Bagdad, les adeptes de la sunna en sont sortis pour vivre dans sa banlieue. Et cela est d'ailleurs relaté dans l'histoire de Bagdad, qui est un grand livre écrit par Al-Khatib Al-Baghdadi, rahimahullah. Qu'Allah fasse donc miséricorde à nos prédécesseurs qui ont concrètement mis en application ce principe. Je vous dis donc que par Allah, ce genre de propos n'ont pas été écrits pour rester dans les livres. Ils ont plutôt été écrits pour être propagés, diffusés et enseignés dans ce genre d'assises. Il convient donc que les gens soient informés afin qu'ils l'appliquent. Ensuite, l'agréera qui l'agréera. Et se vexera qui se vexera. Et cela ne te touchera en aucun cas, ô toi le sunnite. L'auteur a dit également, il fait partie de la sunna de s'écarter de tous ceux qui adoptent une seule des croyances que nous avons citées. C'est-à-dire ce qui a été cité précédemment dans ce livre, étant donné qu'il représente le dogme des gens de la sunna et de l'union sur la vérité. Ahl sunna wal jama'a. Ainsi, quiconque contredirait un seul des points qui ont été mentionnés, alors il fait partie de la sunna de le mettre à l'écart et de s'en écarter. De même qu'il convient d'être courroucé vis-à-vis de lui et de le blâmer. Et pas seulement lui. En effet, doit également être boycotté celui qui le prend comme allié, l'aide, le soutient, le défend et le fréquente. Même si celui qui fait cela laisse apparaître la sunna. Dis donc à cela parmi nos contemporains, que disent-ils de ce genre de propos? Ceux qui prétendent être sur la sunna, alors qu'ils défendent ceux qui contredisent, un des points qui ont été mentionnés. Or, ce qui a été mentionné n'est autre que les bases fondamentales du dogme des gens de la sunna. Ils les défendent et cherchent à les innocenter. Par exemple, concernant l'insulte des compagnons, ils disent non. Si celui qui la prononce est à la base sunnite, alors on ne dit pas que c'est un innovateur ou que c'est un rafidi. Cela alors qu'Ahmed, rahimahullah, disait « Celui qui critique un seul compagnon ou incite à le critiquer ou cite ses défauts n'est qu'un sale innovateur rafidi. » Mais de nos jours, non. Ils te disent « Si c'est un sunnite à la base, alors nous ne disons pas que c'est un innovateur. » Pourtant, les Khawarij, qui constituent un autre groupe égaré, se réclamant de l'islam, et qui sont connus, notamment, pour considérer que celui qui commet un grand péché sort forcément de l'islam. Pourtant, les Khawarij ne sont-ils pas sortis de la sphère de la sunna à cause du fait qu'ils ont contredit au sujet d'un seul fondement? De même que les Rawafid, qui n'en sont sortis qu'à cause de la contradiction à un seul fondement, de même que les Khadariyya, il n'a pas été attendu que toutes les contradictions à la sunna se réunissent dans chaque groupe égaré, afin qu'on considère qu'il est sorti de la sphère de la sunna. La contradiction à un seul fondement suffit, et ce, car le dogme des gens de la sunna est un tout. Et quiconque contredit ne serait-ce qu'un fondement, c'est comme s'il avait été en contradiction avec l'ensemble de ses fondements. Il est donc mis à l'écart et attribué à l'innovation dont il s'est rendu coupable. Ainsi, nous disons un tel est rafidi. Et s'il a contredit en tombant dans l'irja, nous disons que c'est un murji, même s'il est en conformité avec la sunna dans l'ensemble des autres domaines de la sunna. Les murji'a ne se sont-ils pas égarés uniquement dans la question de la foi? Et les khawarij ne se sont-ils pas uniquement égarés dans les questions de l'écoute et de l'obéissance du gouverneur musulman? Et dans le fait qu'ils aient considéré que celui qui commet un grand péché sort de l'islam? Et les Qadariyya ne se sont-ils pas égarés uniquement dans la question du destin et ainsi de suite? Ainsi, quiconque est en opposition avec la sunna dans une seule de ces questions, il est obligatoire de le mettre à l'écart dans un premier temps, puis de le boycotter. Ainsi, on ne lui adresse pas le salam, ni la parole, on ne s'assied pas avec lui, on ne le consulte pas, et on ne voyage pas en sa compagnie jusqu'à ce qu'il se repente et que son entourage prenne conscience de la gravité de son cas. Il doit donc être blâmé et détesté à cause de l'innovation qu'il a commise. Sinon, comment les gens vont-ils comprendre qu'il est dans le faux? Si ce genre de personne n'est pas critiqué, comment les gens vont-ils se rendre compte? Et la critique n'est pas comptée comme de la médisance dans 6 cas de figure. Parmi ces 6, celui qui commet ouvertement un acte de perversité. Et ce dont nous parlons ici compte parmi les pires formes de perversité. Nous demandons à Allah de nous en préserver. En effet, les innovateurs à ce niveau-là sont des pervers. Car la perversité, c'est le fait de sortir de la droiture. Nous demandons à Allah la santé, de même que d'être épargné de cela. Il n'est pas possible que les gens soient sur leur garde les concernant sans qu'ils ne soient détestés et blâmés. Et le fait de faire cela ouvertement n'est pas de la médisance. Et il n'y a pas de médisance concernant l'innovateur lorsqu'il s'agit de mettre en garde et d'éclaircir les gens. Et il en est de même pour celui qui s'allie à lui. S'il s'allie à lui alors qu'il est au courant de son cas, alors on le considère pareil que lui. Quant à toi, à première vue, s'il est sunnite, sois attentif ici. S'il est sunnite, il t'est obligatoire d'avoir une bonne opinion de lui. Tu le conseilles, comme l'a dit l'imam Ahmed, et comme l'a entre autres rapporté de lui Abu Daoud, qu'Allah leur fasse miséricorde. En effet, il a dit à l'imam Ahmed, qui était son professeur, son enseignant, son cheikh, il lui a dit, « Oh Abba Abdillah, Si je vois un homme en compagnie d'un innovateur, est-ce que je le boycotte ou est-ce que je lui parle ? Il répondit, il convient plutôt que tu le mettes en garde contre lui. Il a donc dit de le mettre en garde contre lui, puis il a ajouté, puis si tu le vois par la suite marcher à ses côtés, alors considère-le comme lui. Ainsi, le fait de boycotter ceux qui s'allient aux innovateurs est une pratique établie chez les salafs, qu'Allah leur fasse miséricorde. Surtout si en plus de s'allier à eux, l'individu ajoute à cela qu'il les secourt, les défend et leur tient compagnie. Et aujourd'hui, on nous est venu avec une manière nouvelle de voir les choses. Ainsi, on te dit un tel est sunnite, mais commet des erreurs. Un tel est un salafi qui a commis des erreurs. Quelles sont ces erreurs ? C'est une question. La réalité, c'est que ces erreurs, c'est quoi ? C'est qu'il suit la voie des khawarij. Quand tu regardes les dites erreurs, tu te rends compte que c'est un khariji. Tu regardes les dites erreurs et tu te rends compte que c'est un rafidi qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu regardes les dites erreurs et tu te rends compte que c'est un jahmi. Et après ça, on te dit que c'est un sunnite qui a commis des erreurs. Le chéri n'est pas en train de nier le fait qu'un sunnite il puisse commettre des erreurs. Il est en train de dénoncer le fait de se cacher derrière cela pour minimiser de la gravité du cas des innovateurs et de qualifier des innovateurs qui commettent des innovations aussi graves que celles-ci de salafis qui ont commis des erreurs. Il continue en disant également, au lieu de dire quand elle est innovateur, ils se sont mis à dire, il a été rendu innovateur. Et tout cela n'est qu'un moyen de se moquer des gens, en particulier la jeunesse salafi. Tous ces propos sont nuls et non avenus, car quiconque s'allie à l'innovateur ou le défend lui est identique. C'est un innovateur comme lui, sans aucun doute ni aucune hésitation. S'il se contente de lui retenir compagnie, alors nous disons, comme nous l'avons précédemment vu en parlant du fait de fréquenter les adeptes des passions, et le shir donc ici l'a récité quelques vers de poésie, exposant le fait que la valeur de l'individu dépend de qui il fréquente, et mettant en garde contre le danger des mauvaises fréquentations. Puis il ajouta, si tu vois un homme en compagnie d'un innovateur et que tu l'as averti à son sujet, et qu'il a refusé, alors considère-le comme lui. Pourquoi ? Car l'individu est sur la même religion que son ami intime. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a également dit, les âmes sont-elles des armées regroupées ? Celles qui sont en accord s'unissent et celles qui se réprouvent mutuellement s'éloignent les unes des autres. Donc si tu le vois avec lui, sache qu'il l'aime. Étant donné que nous avons vu précédemment que l'anse la plus ferme de la foi, c'est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Il est donc impossible que l'adepte de la sunna aime l'adepte de l'innovation. Ceci car l'amour est un penchant du cœur et il ne peut se manifester que si les cœurs se rapprochent. Al-Asma'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, lorsque les cœurs se rapprochent dans une affiliation, les corps se rapprochent par la fréquentation. C'est-à-dire que si le cœur est affilié à une chose, et quand elle est affiliée à la même chose, alors les corps se rencontreront, car l'individu est sur la même religion que son ami intime. Et il n'est donc pas possible qu'il s'allie à lui sans qu'il ne soit sur la même voie que lui. Et il ne secourt pas sa cause sans qu'il ne soit sur la même voie que lui. Et il ne le défend pas sans être sur la même voie que lui. Et il ne lui tient pas compagnie sans être sur la même voie que lui. Même s'il laisse paraître devant toi qu'il est un partisan de la sunna. Car par Allah, en dehors de qui nul Dieu ne mérite d'être adoré, un adepte de la sunna ne pourra jamais se réunir avec un adepte de l'innovation. Même s'il te prête à être sur la voie de la sunna, nous lui disons les actes confirment. Ou infirme, or tes actes contredisent ta parole. Nous demandons à Allah la santé de même que d'être épargné de cela. Et c'est ainsi que se termine cette parole bénéfique du Shir Muhammad Ibn Hadi al-Matrani en commentaire de la parole de l'imam Ibn Battah, rahimahullah. Et on s'en tiendra à ça. Et je pense que les propos du Shir suffisent. Largement, Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.